C'est l'heure de l'EM, l'émission sur Radio Évasion, au programme de votre émission Découverte du club de rugby de Châteaulin. C'est d'actualité et en plus, c'est local.
L'EM, l'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
L'équipe du LEM Sport au complet cette semaine, deuxième rendez-vous mensuel de l'année qui nous mène à la découverte du club de rugby de Châteaulin. L'actualité locale croise l'actualité sportive du moment, bien évidemment marquée par la Coupe du Monde de rugby en France. Nous serons tout à l'heure avec Gilles Casalo, trésorier du club, pour discuter de l'actualité du club et aussi de rugby en Bretagne. Mais avant ça, retour sur les infos sportives bretonnes de la semaine avec Hugo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Évasion, vous écoutez les évadés du sport, votre flash autour de l'actualité sportive bretonne. Au sommaire de ce second flash de la saison, un point sur une huitième journée contrastée pour Brest et Lorient en Ligue 1 de football, un retour sur le début de saison ambitieux des Béliers de Quimper en National 1 masculine de basket, et enfin, nous apporterons l'entame de championnat tonitruante du Rugby Club de Vannes en Pro D2 de rugby. On débute ce flash avec du football et plus précisément avec la Ligue 1. Le Stade Brestois est parvenu à arracher l'égalisation dans les dernières secondes de la rencontre face à Toulouse grâce à un but de Martin Satriano. Ce match nul permet aux hommes d'Éric Roy de rester invaincus à domicile et ce depuis le début du championnat. Les partenaires de Brendan Chardonnay démontrent une solidarité et un état d'esprit combatif toujours aussi impressionnant. Ses vertus ou encore la qualité technique du milieu de terrain Romain Del Castillo ont pour le moment offert aux Finistériens 14 points sur 24 possibles et donc une place dans les 5 premiers du classement. Cette situation, beaucoup plus confortable que lors des dernières saisons, devrait permettre au TISEF d'envisager au moins un maintien plus confortable et peut-être même, qui sait, des ambitions inattendues. Du côté de la ville aux 5 ports, le FC Lorient occupe la 15e place de premier non concerné par la relégation après un match nul spectaculaire acquis sur la pelouse de la Lanterne Rouge de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais. Après avoir ouvert le score par l'intermédiaire de Junior Croupy, la pépite, les lacunes défensives des Bretons se sont à nouveau mises en évidence. Ils ont encaissé 3 buts en un temps resserré et les Tangos étaient donc menés 3 buts à 1 à la pause. Mais les Merlus ont su faire preuve de caractère et d'abnégation pour revenir logiquement au score en fin de rencontre. D'abord par l'intermédiaire du deuxième but d'Eli Junior Croupy, puis par une égalisation splendide signée du latéral gauche Darlin Niongwa. Ce résultat évite au Tango de sombrer avec une troisième défaite consécutive, même si le bilan de ce match et du début de saison plus généralement reste très décevant. Après la trêve, Lorient recevra le Stade Rennais pour un derby sous haute tension. Parlons désormais basket. Les Béliers de Quimper se sont offerts leur premier succès à l'extérieur dans cette saison de National 1. C'était sur le parquet de Poissy samedi dernier sur le score de 72 à 69. Les Quimperois ont maîtrisé leur sujet, hormis une entame de match délicate mais rapidement corrigée défensivement. Cette victoire, qui regorge de satisfaction dans tous les secteurs de jeu, est à l'image de la deuxième place de leur poule qui symbolise la corrélation entre les ambitions d'un retour en Pro B et les performances depuis le début du championnat. L'entraîneur Thibaut Wolchik salue la capacité de son équipe à répondre aux défis proposés par leurs adversaires et donc à s'adapter à eux. Il qualifie le rendement de son groupe comme étant positif et signe qu'ils sont sur la bonne voie pour retrouver la deuxième division. En témoignent les débuts réussis de la recrue Joël Aouich, 30 ans. Les Quimperois voudront dès la semaine prochaine enchaîner un quatrième succès en autant de matchs. Ils nous donnent pour cela rendez-vous à domicile vendredi contre Tours. Place au rugby, le Rugby Club de Vannes occupe seul et incontestablement la première place du classement de Pro D2. Alors que l'équipe dirigeante a récemment présenté le projet à long terme du club, qui a parallèlement affiché l'ambition de devenir un des 3 premiers budgets de Pro D2 et aussi de monter prochainement en top 14 l'élite du rugby, c'est sur le terrain que les hommes de Jean-Noël Spitzer répondent présents. Ils présentent la meilleure attaque du championnat et sont invaincus en 6 rencontres, avec 5 victoires qui ont été des cartons offensifs et un match nul spectaculaire. Les joueurs du Rugby Club de Vannes veulent espérer donc jouer un rôle précieux pour la montée, mais la concurrence sera dense tout au long de la saison, à commencer par la rencontre vendredi face à Dax à l'extérieur. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau flash des évadés du sport. On se retrouve tout à l'heure pour la météo. Et en attendant, je vous laisse avec Pierre-Yves et Fred. Et là aussi, je crois qu'on va parler au Valais.
Et de retour en studio, effectivement, Hugo, tu avais raison. Nous parlons rugby dans le LEM Sport en accueillant Gilles Casalo, trésorier du Rugby Football Club Castelline, aka, sans mauvais jeu de mots, le club de rugby de Châteaulin. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Et puis bonjour Fred aussi, qui est avec nous en studio.
Bonjour.
Alors débutons par l'actu du club. L'agenda de dimanche sera chargé pour le club de Châteaulin. Le Rugby Football Club Castelline de Châteaulin organise le dimanche 15 octobre 2023, donc son vide-grenier d'automne à la salle Quatigrard à Châteaulin. Alors justement, le Rugby Club de Châteaulin, on va en parler. Alors, grosse journée, donc le 15 octobre. Tous les amoureux donc, de rugby seront à la fête ce dimanche avec un France-Afrique du Sud le dimanche soir. On va en reparler très certainement. Tiens, première question, il y a déjà un effet Coupe du Monde à Châteaulin ?
Ça commence, oui. On attend beaucoup des demi-finales, enfin quart de finale, demi-finale, pour voir si la France est qualifiée, en espérant bien évidemment qu'elle se qualifie. Mais il y a de l'engouement autour des matchs, surtout avec les écoles de rugby où les gamins sont très contents d'arborer le maillot de l'équipe de France, qu'ils se font offrir à Noël ou pour les anniversaires. Et il y a un réel engouement pour le rugby et pour la Coupe du Monde.
Donc ça arrive petit à petit.
Ça monte en pression petit à petit, à mon avis, comme pour les joueurs.
Il y a encore de la place là pour s'inscrire là. C'est toujours le moment pour les petits là.
Il y a toujours de la place pour s'inscrire. Faut savoir que avec les règles de la fédération et de la Ligue de Bretagne de rugby, les enfants ont le droit à deux jours d'essai, donc deux samedis, parce que les entraînements ont lieu le samedi matin, pour essayer, pour voir si le rugby leur convient et comment ça se passe quoi.
Fred. Justement, alors à partir de quel âge on peut commencer le rugby à Châteaulin et jusqu'à quel âge on peut jouer au rugby ?
Alors, on peut commencer le rugby à 4 ans, où là c'est du baby rugby et on peut jouer jusqu'à plus soif. Les plus âgés ont 67 ans. Le licencié, mais c'est un dirigeant, le plus âgé a 78 ans. Et donc, on peut jouer tout le temps. Alors, évidemment, on ne joue pas le même rugby à chaque fois. Pour les bébés, c'est plus de la découverte du ballon ovale, découverte du contact avec les autres, du rapport avec les autres. Plus on monte dans les âges et plus la technique évolue. Et quand on arrive en rugby loisir, là, c'est du jeu sans plaquage, au toucher, 5 contre 5 pendant 6-8 minutes, de façon à faire marcher le cardio, mais à ne pas se blesser. Quoi.
Et donc, alors, il y a des équipes jeunes et des équipes seniors, ça représente à peu près combien d'équipes et comment c'est réparti ?
Alors, il y a 99 exactement licenciés au club de Châteaulin, qui se répartissent grosso modo en la moitié, une cinquantaine de jeunes, donc de moins de 16 ans, qui sont dans des équipes. Les autres, ce sont les seniors, donc les plus de 18 ans. Et on a une vingtaine de personnes qui jouent en rugby loisir. Comme j'expliquais tout à l'heure, sans contact. Et à peu près 5-6 dirigeants qui sont obligatoirement, pour être dirigeant, il faut être licencié, qui sont dirigeants, mais qui n'appartiennent à aucune équipe.
Et donc, alors, moi, j'avais deux questions en une, mais déjà, alors, pourquoi le RFC Castelline, donc du coup, le Rugby Football Club ?
Alors, parce que quand ce club a été créé en 82, les personnes qui ont créé le club ont fait référence au début du rugby, où c'était une émanation du football, et ça s'appelait le Rugby Football. Donc, en mémoire à cette histoire, on a appelé ça le Rugby Football Club Castelline, Châteaulin en breton. Et voilà pourquoi rugby football, mais ça n'a rien à voir avec le ballon rond.
D'accord. Et aujourd'hui, alors le club Châteaulin est dans le cadre d'une entente avec le club de Pont-l'Abbé ?
Alors, au niveau des seniors uniquement, donc des joueurs de plus de 18 ans, on est en entente avec Pont-l'Abbé, tout simplement pour un problème de structure et de quantité de joueurs. Il faut savoir que s'il y a 15 joueurs sur un terrain, il en faut au moins 25 ou 30 licenciés pour tenir compte des blessés, pour tenir compte des absences, et que sur une feuille de match, il y a 23 joueurs, donc il faut qu'il y en ait 23 qui soient présents. Donc 23 sur 30, c'est quand même pas mal, et c'est pour ça que suite à des départs liés à, comment dire, à des mutations, le travail, etc., ou des gens qui sont partis à l'extérieur, qui ont quitté la Bretagne, on n'avait plus assez de joueurs pour jouer, pour faire une équipe. Pont-l'Abbé, pareil. Donc, on a décidé de faire une entente avec Pont-l'Abbé au niveau de l'équipe senior uniquement pour pouvoir faire jouer tout le monde.
Alors, où est-ce qu'il situe le club de Châteaulin dans l'historique des clubs bretons? Est-ce que c'est un club qui est ancien?
Alors, ni très ancien, ni très vieux. Il y en a des beaucoup plus vieux, comme Vannes ou comme Brest. Mais il a quand même 40 ans d'existence. C'est déjà pas mal. 40 ans où il y a toujours eu des équipes qui ont joué au niveau régional. Donc, savoir où il se situe exactement, je ne pourrais pas dire au niveau ancienneté, mais c'est un club qui commence à avoir de la bouteille et qui commence à être connu au niveau de la Bretagne et au niveau du Finistère surtout.
Un peu plus d'une quarantaine d'années, c'est ça, quoi, début des années 80. Quoi.
Ouais, 82 exactement.
Et est-ce qu'il y a une... Parce que le rugby, c'est quand même un sport plutôt du sud, mais est-ce qu'il y a une culture rugby en Bretagne?
Ça commence. Commence avec l'effet Vannes, c'est sûr, qui est en tête du top du Pro D2 actuellement. C'est sûr que ça amène les gens à vouloir voir le rugby et à connaître le rugby beaucoup plus qu'avant. Il y a pas encore une... C'est pas la même culture que dans le sud-ouest, où là, c'est vraiment le sport de base. Malheureusement, c'est encore un autre sport qui est de base en Bretagne. Donc là, effectivement, on arrive petit à petit. Là, il y a eu quand même, entre l'année 2022-2023 et les années précédentes, il y a eu presque 5% de plus de licenciés. Donc petit à petit, on monte en puissance et on fait connaître le rugby. Et c'est peut-être grâce aux médias et à la démocratisation du rugby qu'on arrive à avoir de plus en plus de jeunes, surtout, qui veulent venir jouer.
Une montée du RC Vannes, ça pourrait encore accélérer les choses?
Alors, au moins au niveau de la performance du rugby breton, oui, certainement. Maintenant, après, il faut voir si les clubs peuvent suivre ou peuvent accepter une telle montée en puissance. À bout d'un moment, on a des structures qui sont liées à la capacité d'accueil, je dirais. Si d'un seul coup, on avait 200 licenciés en plus, il faudrait des équipements supplémentaires, il faudrait des éducateurs supplémentaires, il faudrait plein de choses supplémentaires. Et le plus difficile aujourd'hui pour les petits clubs ou les clubs moyens, c'est de trouver des bénévoles qui veulent bien donner de leur temps pour travailler pour le club.
Parce que l'encadrement, il faut le rappeler, repose sur du bénévolat.
Ah, c'est à Châteaulin, c'est 100% bénévole. Il n'y a pas un salarié, il n'y a rien. Sur tous les bénévoles, alors au niveau du bureau, on est 7 personnes au bureau. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 7 personnes, il n'y a que 2 messieurs et donc 5 femmes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un engouement de la part des femmes de venir de s'occuper du rugby. On a beaucoup dans le rugby loisir, ce qu'on a au toucher à 5, il y a majoritairement des femmes qui viennent, qui jouent à ça. Donc ça démontre un engouement certain aussi de la gente féminine pour le rugby.
Du coup, oui, c'est donc un sport où il y a de la mixité. Est-ce qu'il y a d'autres points comme ça, comme la mixité, qui font que le rugby a le vent en poupe? C'est des valeurs peut-être ou
Les valeurs, bon...
On parle souvent des valeurs dans le rugby, mais voilà, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous savez que c'est ce qui amène les gens au rugby aujourd'hui?
Alors, il y a des éléments qui sont importants. Déjà, c'est la mise en avant par les médias toujours de la performance des clubs ou des équipes de France, que ce soit masculine ou féminine. Et puis, il y a des valeurs que l'on transmet aux gamins, parce que même en tant que trésorier, je suis aussi éducateur des moins de 10. Et on leur transmet des valeurs comme le respect, qui n'est pas que dans le rugby, mais qui est notre principale valeur, le respect de tout le monde, des arbitres, des autres joueurs, des encadrants, de tous ceux qui sont autour. Le respect, le goût de l'effort, à vouloir jouer au rugby. Et ça, je crois que c'est très important. Et surtout, l'esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui se détache par rapport à un autre. C'est l'équipe qui gagne. Ce n'est pas un joueur. Et ça, c'est des valeurs qu'on essaye de transmettre. Et même quand on joue à 5 au rugby loisir, c'est exactement les mêmes valeurs. Il y a toujours ce sentiment de saluer l'arbitre à la fin du match, d'aller saluer les autres adversaires, leur dire qu'ils ont bien joué. Même s'ils nous ont mis 50 points, ce n'est pas grave. Et de rester vraiment... et puis c'est l'équipe qui joue, c'est l'équipe qui gagne. Il n'y a pas d'individualité plus que d'autres qui font. Et je crois que le rugby, c'est ça, quoi.
Alors, on l'a un petit peu évoqué dans le cas là, de l'équipe dirigeante du club de Châteaulin, qui est très féminisée. Est-ce que les jeunes filles arrivent aussi vers le rugby à Châteaulin? Et puis, quelle part aussi ça prend aussi dans le club?
Alors, ça prend de plus en plus de place, évidemment. Les jeunes filles arrivent dans le rugby. L'année dernière, nous avions deux jeunes filles qui étaient en équipe du Finistère, donc du club de Châteaulin, qui étaient en équipe du Finistère. Ça prend de plus en plus de place. Bon, c'est un petit peu difficile. C'est difficile de faire confiance aux parents et de leur dire... Le rugby, c'est aussi pour les filles. Il n'y a pas que la danse et la gymnastique. Le rugby, c'est aussi un sport de filles. Et elles peuvent très bien jouer et très bien s'éclater en jouant au rugby sans forcément se blesser. Il n'y a pas forcément de danger à jouer au rugby, surtout pas.
Chez les filles, on a aussi une super équipe de France, il faut le rappeler.
Oui, c'est clair.
Et alors, que diriez-vous aux parents, éventuellement, qui diraient que le rugby, c'est un sport qui est violent et qui pourrait être un frein, justement, à inscrire leurs enfants dans une activité comme le rugby?
Ce que je leur dirais, c'est de venir essayer, de venir voir le samedi matin à Châteaulin. Comment on entraîne les enfants, ce qu'on leur fait faire, et que si c'est bien fait, si les enfants écoutent, c'est comme dans tous les sports, s'ils écoutent vraiment ce qu'on leur dit de faire et s'ils le font correctement, il n'y a aucune raison de se blesser. Il n'y a pas plus de raison de se blesser au rugby qu'en faisant du vélo sur la route, qu'en jouant au foot ou qu'en jouant au handball. C'est pas, même au tennis, on peut prendre une balle dans l'œil parce qu'on n'a pas fait attention. C'est aussi dangereux. Si, c'est comme tous les sports. Si on fait attention, si on fait ce qu'on nous dit de faire, de toute façon, on ne peut pas se blesser. Et puis, les entraîneurs sont là pour leur apprendre les postures, la position... c'est pas si dangereux que ça.
Merci beaucoup, Gilles. Peut-être une petite dernière question. Combien on vient au rugby en Bretagne, comme c'est le cas pour toi?
Le rugby, pourquoi je suis venu au rugby? Parce que j'étais fan de rugby quand j'étais gamin et je regardais le tournoi des 5 Nations à l'époque avec mon père devant la télé. Et j'ai toujours aimé le rugby. J'ai fait du rugby au lycée, j'ai fait du rugby à la fac. Après, j'ai un peu laissé tomber pendant les époques professionnelles. Et puis, je m'étais dit qu'à la retraite, on voulait partir en Bretagne. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Il fallait que je m'occupe d'un club. Et puis, voilà, j'ai trouvé le club de Châteaulin, où il y avait une super entente, où j'étais bien accueilli. Et puis, petit à petit, on a progressé, on est monté... On a commencé à s'occuper des petits, après on s'occupe de plus en plus de choses, et puis voilà quoi.
Eh bien parfait. Merci beaucoup Gilles d'être venu jusqu'à nous, puis super merci. Ambassadeur du club de Châteaulin. Et on rappelle, Vide-Grenier, ce dimanche, à l'espace scout Quatigrard à Châteaulin. Et puis on va tout de suite retrouver Hugo pour sa météo, qui va aussi nous parler de rugby.
Pierre-Yves, Fred, pour cette première météo de la saison, enfin en ce qui me concerne, il s'agit de démystifier la façon dont nous percevons depuis tant d'années, ces femmes et ces hommes qui nous passionnent, qui nous émeuvent et que l'on admire sans cesse, il s'agit de constater, ou plus exactement de reconnaître, que les athlètes qui façonnent le sport de haut niveau sont avant tout des êtres humains et que donc ils sont tout autant faillibles dans leur sport que nous, les supporters, les quidam, dans nos vies de tous les jours. Il paraît important d'évoquer ce sujet à l'heure où la mâchoire d'Antoine Dupont et les errements en tout genre de Kylian Mbappé cristallisent tous les fantasmes de toutes les discussions de comptoir. Commençons donc par le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont. car ce lundi, c'est tout l'Hexagone qui a retenu son souffle pour savoir si nous pourrions compter sur le leader du gang des Javsois, aussi appelé meilleur joueur du monde, pour les phases à élimination directe du Mondial. Bon, vraisemblablement, la réponse à cette question est oui, puisque Dupont a été autorisé à reprendre l'entraînement collectif avec contact. Mais sincèrement, Antoine Dupont, il a beau être le meilleur joueur de sa discipline, un sportif au mental et au don de soi hors du commun, cela est reconnu par tous. Avons-nous pour autant le droit de trouver un peu fou qu'il puisse être apte pour jouer un quart de finale de Coupe du Monde face à l'adversaire le plus puissant possible sur le plan physique? Fred en parlait dans sa dernière météo, en la personne de l'équipe d'Afrique du Sud, qui défiera les Français dimanche prochain au Stade de France à 21h. Et surtout, cette décision médicale intervient 3 semaines après une fracture de la mâchoire. Alors oui, vous allez me rétorquer des arguments rationnels, du type « on sait tous que ces joueurs ne sont pas faits du même bois que nous, et que donc ils peuvent se rétablir plus vite et résorber toutes les blessures en un temps record ». Mais là aussi, j'ai envie de placer un bémol, car depuis des décennies, le monde de l'ovalie lutte pour éviter les blessures graves, en espaçant les matchs, en mettant en place des protocoles précis pour guérir les commotions cérébrales, véritable fléau de ce sport. Et c'est donc dans ce contexte que Dupont et son chirurgien se permettent de faire fi de la santé, élément essentiel du sport de haut niveau, pour revenir en héros très rapidement, et ce alors que depuis 3 ans, Fabien Galthié et son staff ont tout organisé pour faire face à n'importe quel type d'aléa, et y compris ces types d'aléa physiques. Le numéro 9 des Bleus, si talentueux soit-il, ne doit pas négliger les qualités de ses coéquipiers au même poste que lui, Maxime Lucu et Baptiste Couillou, qui ont prouvé vendredi dernier contre l'Italie qu'ils étaient tout à fait aptes de le remplacer au moins sur 80 minutes. Mais surtout, le prodige du Stade Toulousain doit se rappeler que plus le repos sera probablement prolongé, plus il aura des chances d'être le premier porteur du trophée Web Ellis le 28 octobre dans un Stade de France que l'on souhaite ce soir-là en fusion. Enfin, cela se produira à condition que le rêve se poursuive d'ici là pour nos tricolores. Et cela n'est pas encore fait, loin de là, puisqu'il faudra au moins gagner 3 matchs. Antoine Dupont est un humain différent, ce qui ne fait pas de lui un demi-dieu. Passons maintenant au génie français du ballon rond. Il s'agit donc de Kylian Mbappé. Depuis le mois de juin, le Bondinois a chamboulé sa carrière, comme il a chamboulé le début de saison du PSG, en partant au bras de fer avec sa direction, en refusant de prolonger son contrat, ce qui a fait croire à ces mêmes dirigeants qu'il avait un accord plus ou moins secret, ou pas vraiment du coup, avec le Real Madrid, club légendaire, club de ses rêves. Mais c'est indispensable à la performance que Mbappé a retrouvé le rectangle vert et son statut de footballeur à la fin août, cette fois débarrassé des Neymar, Messi et autres Verratti, et accompagné notamment de ses coéquipiers en équipe de France, à l'instar de Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Randal Kolo Muani, héros maudit de la finale de la Coupe du Monde 2022. Après quelques matchs impressionnants, laissant présager des perspectives heureuses pour la bande à Kiki, eh bien Mbappé semble depuis une dizaine de jours être devenu un joueur méconnaissable. Tantôt en voulant se surpasser, en voulant décrocher, prendre les ballons dans le rond central pour les plus adeptes, un peu se prendre pour Neymar, ce qu'il n'est pas vraiment, ou tantôt en n'en faisant pas assez, en montrant une moue très explicite, synonyme sans doute de flémagie aiguë, quand il s'agit de venir défendre. Cette situation, qui lui fait subir logiquement de nombreuses critiques, parce que oui, tout le monde est attaquable, nous rappelle sans doute à quel point il est complexe de maintenir les standards de performance auxquels il nous a habitués depuis maintenant 6 ans. Et même si certains journalistes, par ailleurs reconnus dans le métier, suivez mon regard même si c'est de la radio, expliquent que le vice-champion du monde est devenu le leader des soirées de débauche parisiennes plutôt que le leader de l'attaque du PSG, ne faudrait-il pas plutôt évoquer la santé mentale et se demander si Mbappé ne traverse pas tout simplement une période de doute tout à fait logique, tout à fait linéaire à sa carrière? Est-il en pleine hésitation? Va-t-il prolonger? Va-t-il partir au Real? A-t-il fait les bons choix? Pense-t-il au pénalty qu'il a raté contre la Suisse? À sa balle de quadruplé en finale de Coupe du Monde? Après tout, pouvons-nous normaliser tout ça? Pouvons-nous se dire que les sportifs sont des êtres humains comme nous? La tentative de suicide désespérée du jeune Alexis Beka Beka nous l'a bien montré à Nice. Thierry Henry, qui évoque ce sujet en conférence de presse avec l'équipe de France Espoir, en est un bon symbole. Le mental doit être au centre de tout. Les joueurs brestois le savent bien, depuis qu'ils sont accompagnés par Thomas Hamut, ils trustent les premières places de la Ligue 1, et s'il n'y a pas de hasard, Thomas Hamut s'occupe aussi de Léon Marchand, comme il s'était occupé de la génération dorée des nageurs français. Le mental est au centre de la victoire, et il est aussi le pire ennemi pour la défaite.
L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.